soirée, surtout excellente condition d'écoute des programmes de Radio Kapi. À toutes et à tous, chères auditrices, auditeurs et internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission préférée sur la Radio de la Paix. Et dialogue entre Congolais qui vous reçoit. On dit merci à André Mongou qui assure la mise en onde ainsi qu'à Dieudonné Nyangasa ou Nyangasa qui assure les lives sur nos plateformes digitales, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, également sur notre compte X. Guy Maté réalise cette émission. Je suis Jean-Marc Amato qui m'a fait les Dijano. Benjamin Moudoumbi participe également à la réalisation de ces programmes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative qui est en cours, qui fait l'actualité en ce moment. Les coordonnateurs du Conseil interreligieux congolais, CIC, archevêque Dodo Kamba a affirmé vendredi 13 février vouloir baliser la voie vers un dialogue non seulement inclusif, mais également sincère et utile. Il consulte des acteurs politiques et sociaux du pays en vue de la mise en place de la commission Vérité-Réconciliation CVR, avec comme objectif de recueillir les avis des acteurs politiques et sociaux sur les mécanismes de réconciliation susceptibles de ramener une paix durable en République démocratique du Congo. Dans le cadre de ces assises, l'archevêque Dodo Kamba a rencontré hier mercredi 25 février les responsables du parti politique Nogec. Après avoir rencontré le 19 février le président du CENSA, Joseph Olengankoy, et le 18 février Martin Fayulu, leader de l'AMUKA, interrogé sur l'éventualité d'un déplacement à Goma pour échanger avec les belligérants, notamment les rebelles de l'FCM23, l'archevêque Dodo Kamba a tenu à clarifier sa position. S'il reconnaît que le travail de la CVR implique d'écouter toutes les parties au conflit, il insiste sur le respect strict du cadre institutionnel. Il souligne que sa démarche ne vise en aucun cas à concurrencer ou à entraver les efforts déjà entrepris par la présidence de la République, mais constitue une manière, de se réconcilier avec le peuple en demandant pardon pour toutes les actions qui ont détruit, fâché ou endeuillé des familles. Quelle analyse faire de la démarche de l'archevêque Dodo Kamba qui vise à mettre en place une commission Vérité et Réconciliation avant la tenue d'un dialogue national inclusif? Nous abordons ces thématiques avec trois invités. Il y a déjà l'un qui est avec nous dans ces studios. Nous disons donc merci au Cheikh Amin Katembo, professeur et coordonnateur adjoint du secrétariat technique du Conseil interreligieux congolais. Cheikh Amin Katembo, bonsoir et bienvenue dans Dialogue à Congolais.
Bonsoir et merci de me recevoir.
Voilà, merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Et deux invités sont en ligne, Monsieur Ferdinand Kambéré, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour les Congo FCC. Monsieur Ferdinand Kambéré, bienvenue donc à ces programmes Dialogue entre Congolais.
Bonsoir. Merci Jean-Marc, merci pour l'invitation et l'invitation à nos auditeurs de Radio Kapi.
Merci surtout de votre disponibilité. Nous saluons un autre intervenant, on va dire pour clôturer un peu ce tour de table, Monsieur Itiel Batoumi, qui est analyste politique à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique et la violence en République démocratique du Congo. Bonsoir, Monsieur Itiel Batoumi.
Bonsoir aux auditeurs de la Radio Kapi.
Bienvenue à ces programmes Dialogue entre Congolais. Merci, chers auditeurs, auditrices et internautes, de participer massivement à ces programmes.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Dialogue entre Congolais, c'est l'émission qui vous accueille, c'est l'émission que vous écoutez à l'instant. Sachez que dans les cadres de leur démarche sur la mise en œuvre de la commission Vérité-Réconciliation CVR, le président du conseil interreligieux congolais poursuit ses consultations. L'archevêque Dodo Kamba, qui a rencontré ce mercredi les partis Nogec, a affirmé qu'il n'entend nullement rencontrer l'FCM23 sans l'accord du président de la République. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rung Mouchinche.
Vous savez que partout où nous passons, nous écoutons tout le monde sans s'opposer. C'est l'élégance. Tout le monde parle. Mais sur cette question de pouvoir aller à Goma rencontrer les autres, ça a été évoqué plusieurs fois depuis les débuts de la démarche avec le professeur André Mbata, pour le compte de l'Union Sacrée, on m'a préposé cette question, donc j'ai déjà répondu, j'ai dit que notre travail consiste à échanger à tous ceux qui sont concernés dans le conflit, mais je le dis clairement, pour aller à Goma rencontrer les autres, il faudrait au préalable que nous ayons l'autorisation du chef de l'État. On ne peut pas se permettre de faire comme ça, mais si quelqu'un nous le rappelle, nous apprécions énormément cette manière de faire, mais nullement dans notre tête de pouvoir traverser les limites sans en avoir l'autorisation. Et en plus, nous voulons rassurer à tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin, que nullement dans notre tête d'entraver ou de nous opposer à l'initiative du chef de l'État ou encore au travail qu'il a déjà entamé.
Voilà, vous venez là de suivre cet extrait proposé par Alain Rung. C'est l'intervention du président du Conseil interreligieux congolais, l'archevêque Dodo Kamba, qui poursuit donc ses consultations. Et c'est les sujets que nous abordons ce soir. Et dans ce studio, je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes avec Cheikh Amine Katembo, professeur et coordonnateur adjoint du secrétariat technique du Conseil interreligieux. Il y a deux autres invités qui sont en ligne, notamment Monsieur Ferdinand Kambere, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour les Congos, et M. Itiel Batoumi, qui est analyste politique à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique et la violence en République démocratique du Congo. Alors, M. on va dire Cheikh Amine Katembo, vous êtes le coordonnateur adjoint du secrétariat technique du Conseil interreligieux congolais. Quel est, on va dire, la raison d'être de cette initiative et pourquoi en cette période?
Très bien. Le Conseil interreligieux congolais, je pense qu'il est essentiel que je revienne ne serait-ce que brièvement sur ce qu'est le Conseil interreligieux congolais pour planter le décor qui permette à chacun de comprendre pour quelles raisons est-ce que le CIC fait ce qu'il fait. Le Conseil interreligieux congolais, c'est une organisation interconfessionnelle, c'est-à-dire la loi congolaise a mis en place un mécanisme qui permet à ce que les organisations confessionnelles se mettent ensemble pour travailler dans une même dynamique, dans le cadre évidemment de la société civile. En tant que tel, donc membre de la société civile, les confessions religieuses ont évidemment le droit de participer à la vie nationale en apportant contribution, n'est-ce pas, à ce que certains problèmes qui se posent à notre société puissent trouver des voies de sortie, des voies de solution à travers la sagesse qui est incarnée par les écritures saintes qui caractérisent l'ensemble des religions. Et donc, dans cet esprit-là, le Conseil interreligieux congolais a été mis en place par six confessions religieuses. Je passerai peut-être de les citer. C'est facile de retrouver l'identité de ces confessions religieuses à travers le site internet du Conseil interreligieux congolais, qui est le www.cicrdc.com. Ça permet justement d'avoir toutes les informations sur cette organisation-là. Et donc, elle a été mise en place, elle remplit son rôle d'organisation membre de la société civile qui travaille sur l'ensemble des desiderata de la population, que ce soit de l'ordre confessionnel ou de l'ordre social. Et donc, dans cette dynamique-là, personne ne peut ignorer le fait que, en République démocratique du Congo, nous traversons des temps plutôt critiques. Et ces temps critiques ne datent pas d'hier, ça date d'il y a 30 ans, n'est-ce pas? Le pays a été confronté à des difficultés sécuritaires telles que personne ne peut ne pas jouer sa partition quand il fait partie de cette société. Et donc, les confessions religieuses membres du CIC, étant donné qu'elles représentent une part importante de la population congolaise, parce qu'il s'agit là de certaines confessions de l'obédience réveil, des églises de réveil. Il y a l'église Bima notamment, il y a deux branches de la confession musulmane, il y a la branche sunnite, il y a la branche chiite, et puis il y a notamment les églises Tataonda, etc.
Mais pour quelle finalité?
Voilà, donc l'objectif ici, c'est que ces églises se sont réunies en tant que membres de la société civile en se disant, nous devons jouer notre part dans notre société et apporter notre contribution dans notre manière de faire pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent au pays. C'est l'objectif principal autour duquel le CIC a été constitué.
Mais le fait de suggérer la commission vérité et réconciliation avant les dialogues nationaux inclusifs, c'est pas mettre la charrue devant le bœuf.
Oui, tout le monde a l'habitude de dire ça. Et on peut donner une réponse courte à cette préoccupation-là, c'est de dire pourquoi forcément le faire après? Parce que tous ceux qui disent que la commission vérité et réconciliation doit venir après, ils se basent sur ce que nous connaissons depuis toujours. En fait, c'est la tendance de dire faisons la même chose et voyons si le résultat sera différent. Je ne veux pas évoquer l'adage qui dit que c'est... voilà. Mais nous pensons qu'il y a moyen de faire les choses autrement. Mmh. Et encore que la manière de faire, de mettre la commission vérité et réconciliation après les discussions politiques, ne rassure pas d'un bon résultat. Le Conseil interreligieux congolais, ne vous en faites pas, c'est pas une nuit qu'elle a reçue comme un flash, une révélation de se dire on va faire vérité et réconciliation comme quelque chose qui est de l'ordre de la mode. Pas du tout. Le Conseil interreligieux a réfléchi, n'est-ce pas? Il est non seulement constitué des pères religieux, donc les chefs des confessions religieuses, mais également il y a un corps de scientifiques, parmi lesquels il y a plus d'une vingtaine de professeurs d'université et d'autres spécialistes dans différents domaines. Et c'est l'ensemble de cette intelligence qui a été mise en commun pour réfléchir sur la véritable problématique en se disant, oui, tout le monde aujourd'hui parle du dialogue. Nous voulons le dialogue, semble-t-il, pour résoudre les problèmes du pays. D'accord. Mais avant d'aller dans un dialogue, il faut vous assurer que tout le monde sera sincère dans ce dialogue. Parce que l'objectif du dialogue, c'est que les gens se parlent et que les gens se disent la vérité dans certains points et que nous puissions regarder tous dans la même direction. Aujourd'hui, on en est très loin. On est loin de considérer que les gens peuvent se regarder, se supporter dans une même salle et parler intérêts du pays dès lors que les intérêts individuels et partisans font obstruction. C'est pour cette raison que le CIC pense utilement qu'il serait nécessaire de mettre en avant-plan la commission vérité et réconciliation parce qu'il permettra de régler les frustrations, n'est-ce pas? Et dès lors que les frustrations sont surmontées, parce que ces frustrations, petite parenthèse, sont de deux ordres. Il y a des frustrations d'ordre personnel et des frustrations qui sont d'ordre public. Ces frustrations devraient, peut-être tout le moins les frustrations d'ordre personnel, devraient être réglées avant que les gens puissent aller au dialogue. À partir de ce moment-là, les gens se supporteraient, les gens se regarderaient en face et nous pourrons espérer véritablement avoir un dialogue qui n'est pas une messe politique pour se partager le pays comme un gâteau, mais ça serait une véritable rencontre patriotique pour régler les problèmes fondamentaux du pays.
Voilà, cher ami Katembo, merci pour cet éclairage. Alors, monsieur Ferdinand Kambere, vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et les Développements, PPRD, parti membre du Front commun pour les Congos, FCC. Quelle est votre analyse sur cette initiative, justement, du Conseil interreligieux congolais, CIC, de préconiser la mise en place d'une commission vérité et réconciliation avant la tenue d'un dialogue national inclusif? Et quelles sont vos attentes par rapport à cette proposition?
Merci. Merci Jean-Marc pour nous avoir associé à ce débat de ce soir. Et que donc...
Oui, allez-y.
Nous avons eu effectivement une lettre de CIC et qui voulait nous rencontrer en tant que parti politique. Et je crois que là-dedans, nous avons été clairs dans notre lettre du 20 que nous les remercions pour l'intérêt qu'ils avaient à écouter aussi le PPRD, mais que le contexte était celui où le PPRD est vraiment sous un régime répressif à outrance, où on distribue les condamnations, la condamnation à mort, vous voyez, de notre président national qui est l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, des dirigeants du parti et majeurs, les vice-présidents du parti, l'honorable Obem Inaku, est toujours, jusqu'à aujourd'hui, détenu dans un lieu gardé secret par le régime. Nous étions même heureux que l'Assemblée nationale, en tant qu'institution qui, au contraire, devait veiller à tant que gardien du temple de la démocratie, c'était le vice-président faisant intérim du président, parce que le président n'est pas là, nous le savons, qui lui invite la presse et est en train de couvrir l'arbitraire qui est en train de se passer pour justifier l'arrestation et l'enlèvement et la détention dans des lieux secrets, alors que lui est président de l'Assemblée. C'est elle qui devait contrôler le pouvoir exécutif. Mais ici, il a montré qu'il y a collision entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tel que on ne sait plus qui va contrôler qui. Donc tous les trois pouvoirs ne sont plus séparés, c'est devenu un seul et même pouvoir pour caractériser justement la tyrannie que nous dénonçons. Obey n'est pas là seul, il vient de faire un mois comme ça, mais il y a les camarades secrétaires permanents qui lui amènent des mois, ça que nous ne sachons, surtout nous de la famille politique, où ils se trouvent et pourquoi ils sont gardés. Et le vice-président de l'Assemblée nationale qui vantait les conditions dans lesquelles ils étaient, c'est pas moi quoi, ils mangeaient combien de fois, ils avaient même des temps de relaxation. Mais enfin, est-ce qu'il faut aller enlever quelqu'un chez lui à 3h du matin, à 1h du matin, et il reconnaît même qu'ils n'ont pas droit de visite et les garder dans des endroits comme ça, et il ne comprend pas que ce sont des droits fondamentaux d'un citoyen qui sont en train d'être brisés, violés. Alors nous avons simplement dit, il y a d'autres Camisello à qui on impose un procès que tout le monde est en train de suivre. Il y a Douni à Kilanga, nous allons citer combien. Nos bureaux qui sont aujourd'hui fermés du fait de l'activisme du ministère de l'Intérieur qui se plaît simplement à suspendre les activités et à mettre tout le monde sous surveillance, sous une discipline d'un régime qui est là. Et aujourd'hui, nous avons été clairs qu'on n'est pas disposé, s'il pouvait commencer par là, pour exhorter ce pouvoir de mettre en place la décrispation du climat politique et permettre à ce qu'il y ait un débat qui est apaisé entre toutes les parties, on serait disposé. Mais là, déjà, avec l'affirmation que j'ai vue dans l'introduction, qui ne sont pas prêts à aller en contradiction avec les institutions qui sont là. Et je viens de vous dire déjà là que le fait qu'il n'y ait plus de séparation du pouvoir, ça veut dire qu'on ne parle même plus d'état de droit. Mais CIC, donc lui vient ici porter un discours d'un régime pour lequel nous dénonçons l'arbitraire et faire croire qu'il veut mettre tout de suite en place un comité de vérité et réconciliation. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que un comité ou une commission de vérité et réconciliation? Ça ne peut venir qu'après un dialogue national et inclusif qui est sincère. Mais pas vouloir organiser un truc où on veut contourner tout ce qu'il y a comme démarche, entamer. On est étonné qu'ils soient séparés de la CENCO. Cette idée viendrait, s'ils étaient avec la CENCO et CC, ensemble avec eux, comme il nous avait été dit par le gouvernement qu'ils devaient cogiter ensemble pour voir dans quel cadre ce dialogue peut être appelé, mais qu'aujourd'hui ils viennent séparément, c'est du théâtre, c'est du n'importe quoi, ils découragent les gens. Les gens continuent à être tués et ils ne savent même pas que ce sont des conséquences des élections qu'ils ont supporté pour qu'il y ait cette CENI non consensuelle et que toute la crise ne fait que s'aggraver à partir de ces erreurs-là. Mais ici, on est devant des gens qui se présentent comme des saints et ils veulent juger les uns et béatifier les autres et ils veulent vous parler des dialogues, des vérités et réconciliation pendant qu'il y a la guerre, pendant que les gens se tirent dessus. Pendant qu'on tire les populations même dans
les pays. Donc pour vous, il faut d'abord...
du gouvernement à Beni, à Lubero, à Nitouri et partout là-bas.
Donc pour vous, il faut d'abord...
on est en train de parler.
Donc M.
Voilà
Ferdinand Kambéré...
simplement dit, on n'est pas au temps où on doit encore rentrer dans des distractions. On était au temps où tout le monde était concentré, que même le président ait pensé que Cinco SSC se rencontre avec le groupe des autres là, qui était à la base des élections chaotiques, et qui nous trouve une formule. Là, on pouvait croire qu'on cheminait vers la démarche qui va mettre les fils et les filles congolais sur une même table pour qu'on se parle. Et quand on va se parler, ce sera pour l'intérêt du pays, ce sera pour l'intérêt du peuple, et non des acteurs politiques, parce qu'ils sont dans des institutions qui sont là aujourd'hui. Ici, des élections chaotiques, contestées par tout le monde. C'est pas possible.
Merci beaucoup, monsieur Ferdinand Kambéré. On vous garde encore pour ces débats. Nous allons nous tourner maintenant du côté de monsieur Itiel Batoumi, qui est analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction, monsieur Ferdinand Kambéré, tout à l'heure, a donné son point de vue et Cheikh Amine Katembo a expliqué un peu leur démarche. Quelle est votre analyse? Quant à ça,
je pense que la démarche elle est louable parce qu'on est dans un contexte où la nation est fortement polarisée. On a d'un côté les gens qui sont considérés comme des patriotes et d'autres qui sont considérés comme des traîtres. Et ça, la conséquence, c'est qu'il y a une forte méfiance qui s'accroît entre les camps de ceux qui pensent qu'ils sont patriotes et de ceux qui sont taxés d'être des traîtres. Et la nation a besoin de l'unité et de la cohésion pour pouvoir résoudre la crise sécuritaire qui secoue le pays depuis 2021, mais on peut aussi dire depuis plus de 30 ans, comme l'a dit l'imam qui est dans le studio. Je pense qu'il y a nécessité d'avoir cette démarche de vérité et de réconciliation pour pouvoir affronter la crise que traverse le pays pour l'instant. Cependant, je partage les critiques qui sont formulées par M. Ferdinand Kambéré, parce qu'en réalité, je pense que la démarche vient poser en fait la charrue avant le bœuf, parce que lorsqu'on regarde en réalité les processus de vérité et réconciliation qu'on a eu par le passé dans ce pays, il y a eu d'abord dialogue inter-congolais à Sam City, et à l'issue de l'accord trouvé à Sam City, il y a eu maintenant la création de la commission vérité et réconciliation comme l'une des institutions d'appui à la démocratie lors de la transition de 2003-2006. Donc aujourd'hui, il est difficile de pouvoir poser la commission vérité et réconciliation comme une démarche qui puisse précéder le dialogue. Je suis d'accord avec Ferdinand Kambéré qu'il faut d'abord dialoguer pour pouvoir arriver à créer la commission vérité et réconciliation. Et par ailleurs, vous allez vous rendre compte que l'expérience de 2003-2006 avec la commission vérité et réconciliation n'a pas correctement fonctionné, puisqu'il n'y a pas eu de moyens nécessaires pour que cette institution d'appui à la démocratie de cette époque-là puisse remplir sa mission. Et on va constater d'ailleurs que pour cette raison-là, il n'y a pas eu reconduction de la Commission Vérité et Réconciliation dans la Constitution de 2006 comme une institution d'appui à la démocratie. Cela peut se comprendre par une certaine volonté qui caractérisait les acteurs politiques de l'époque, c'est la tolérance vis-à-vis de l'impunité par rapport aux auteurs de crimes. Et j'ai l'impression que cela ne change pas aujourd'hui dans la démarche qui est proposée par le Conseil interreligieux, parce que on ne voit pas l'insistance sur la justice dans la démarche qu'il propose. Aujourd'hui, c'est bien beau de parler de vérité et réconciliation, mais au-delà de la vérité et de la réconciliation, il faudra que la justice suive. Et je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là parce qu'on n'insiste pas assez sur la nécessité de la justice. Par ailleurs, je voulais faire observer que la mise en place de la commission vérité et réconciliation nécessite un temps nécessaire parce que déjà dans les processus qui existent ou dans les initiatives qui ont précédé, on a du côté du gouvernement congolais dans sa politique relative à la justice, la mise en œuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, une initiative allant dans le sens de créer la commission vérité et réconciliation, et ça date de depuis 2021. C'était l'une des promesses que le gouvernement Sama Lukonde avait faites à la population congolaise lorsqu'il avait été investi devant l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. Ça reste une promesse qui n'a pas été tenue par le gouvernement Sama Lukonde, mais le gouvernement n'a pas totalement abandonné cette initiative-là. Et je peux donc me demander dans quelle mesure l'initiative qui est aujourd'hui proposée par le Conseil interreligieux rentre dans la philosophie de ce qui est déjà envisagé par l'actuel gouvernement dans la poursuite de la mise en œuvre de sa politique de la justice transitionnelle qui est menée par le ministère des droits humains. Donc ça aussi, ça reste une clarification que nous voudrions avoir du Conseil interreligieux pour pouvoir apprécier la pertinence de leur démarche.
Voilà.
Et deuxièmement, je voulais soulever que par rapport au processus de Doha qui est en cours, la question de la justice, vérité et réconciliation fait partie des six protocoles additionnels qui doivent encore être rediscutés, qui doivent encore être discutés à Doha. Donc, dans quelle mesure l'initiative aujourd'hui du Conseil interreligieux ne vient pas court-circuiter les démarches qui sont ou les négociations qui sont déjà à Doha? Et donc, le Conseil interreligieux risque aujourd'hui d'être accusé, de jouer le jeu comme les dénonçait déjà Denis Mo, Ferdinand Kambere, de jouer le jeu du pouvoir parce que on voit que de part et d'autre les négociations de droit n'avancent pas, alors que cette question de vérité et réconciliation est prévue parmi les questions qui doivent encore être discutées à Doha. Donc il est important aujourd'hui, dans ce contexte de méfiance, de pouvoir préciser dans quelle mesure cette initiative du Conseil interreligieux ne vient pas faire friction aux initiatives qui sont déjà en cours au niveau gouvernemental et au niveau des processus de paix de Doha.
Merci beaucoup, monsieur Itiel Batoumike. Alors, cher Camille Katembo, avant de vous accorder la parole de nouveau, il y a quelques réactions qu'on a pu enregistrer sur la page Facebook de Dialogue entre Congolais-Radio Kapi. Il y a par exemple Augustin Moulele qui nous écrit depuis Mbankana dans la banlieue est de la ville de Kinshasa. Il écrit ceci: en réalité, c'est les dialogues qui viennent en amont pour baliser les chemins à la commission Vérité Réconciliation et non commission et commission Vérité et Réconciliation. L'archevêque Dodo Kamba cherche à mettre la charrue devant les bœufs. Les gens doivent d'abord se mettre autour d'une table pour discuter. Après, ils peuvent se pardonner, se réconcilier. Il y a un autre internaute, Patrick Mbouli Kitanga, qui nous écrit aussi sur notre page Facebook: une commission Vérité et Réconciliation, avant même un dialogue national, apparaît comme une initiative de trop. Dans un contexte des guerres persistantes à l'Est, multiplier les cadres des discussions sans autorité réelle risque de produire les mêmes impasses que par les passés. On ne peut pas répéter les mêmes méthodes et espérer un résultat différent. Il y a un autre qui essaie de nuancer un peu, un autre internaute, Fabrice Sambili, qui nous écrit depuis la ville de Beni au Nord Kivu: monsieur Dodo Kamba, qui veut aujourd'hui baliser la voie vers une commission Vérité et Réconciliation, c'est une bonne initiative. Mais pourquoi ne pas commencer par s'unir avec ceux qui avaient déjà engagé cette démarche? Je parle ici de la CENCO et CC. Alors, il y a un peu de, je vais dire, de la méfiance, des doutes, des questionnements. Beaucoup de gens se posent des questions. On a évoqué d'ailleurs cette initiative entre 2003 et 2006 par rapport à la création d'une commission Vérité-Réconciliation qui finalement n'a pas abouti à des résultats escomptés. Quelles sont les garanties qu'avec le Conseil interreligieux congolais, que nous pouvons cette fois-ci sortir des sentiers battus?
Merci beaucoup. Désolé si j'ai un chat dans la gorge.
Non, allez.
Je suis en plein jeûne.
Ouais.
Je veux dire ceci. Tout ce que je viens d'entendre tout à l'heure, j'aimerais d'abord remercier les autres participants, co-débatteurs.
Les co-débatteurs, voilà. Les co-débatteurs.
Ok, j'aimerais les remercier pour leurs interventions qui sont du reste pertinentes. J'aimerais particulièrement remercier également M. Ferdinand Kambere. J'ai entendu sa réaction et certainement le Conseil interreligieux l'a bien entendu. Nous l'avions d'ailleurs compris déjà lorsque nous avions reçu la lettre du PPRD qui avait fait part de ses desiderata et dit son indisposition aujourd'hui de pouvoir recevoir le CIC pour l'écouter par rapport à sa démarche. Sachez qu'il y a une chose qui nous conforte dans notre proposition, dans la proposition du CIC, à savoir celle de mettre la commission vérité et réconciliation avant le dialogue, c'est de dire que nous avons entendu beaucoup de commentaires, n'est-ce pas ? Nous en avons eu des commentaires positifs et des commentaires négatifs. La plupart, si pas toutes, les réactions négatives qui sont réfractaires à l'idée de mettre la commission vérité et réconciliation en amont du dialogue, malheureusement, ces avis ne se réfèrent pas un peu à l'histoire. Elles ne regardent pas un tout petit peu en arrière, 2003 déjà, quel était le sort et pourquoi est-ce que cela était arrivé à la commission vérité et réconciliation de 2003. Évidemment que tout le monde dit cette commission-là en 2003 n'avait pas marché. Mais le sentiment ici, il est unique. C'est de dire que les gens n'interrogent pas la raison pour laquelle ça n'avait pas fonctionné. Le CIC ne s'est pas mis en position de complaisance pour dire on va juste faire quelque chose à la mode, je l'ai dit tantôt dans mon introduction, mais que nous avons analysé la situation. Nous nous sommes plus ou moins référés aussi à la situation de 2003. D'ailleurs, nous avons approché les personnalités qui étaient à la tête de cette commission, qui devaient gérer la commission vérité et réconciliation, pour que nous puissions en comprendre les motivations, comprendre ce qui s'était réellement passé. Le fait est que cette commission vérité et réconciliation de 2003 n'avait pas marché pour une raison très simple. Les acteurs étaient jugés partis. Voyez-vous, les acteurs étaient devenus jugés partis. Comment voulez-vous que, à l'occasion d'un dialogue, nous disons commission vérité et réconciliation, c'est-à-dire il faut que la vérité soit dite, il faut que la réconciliation soit opérée, il faut que la justice transitionnelle ait, je souligne que le conseil interreligieux est totalement d'accord avec la justice transitionnelle et nous l'appuyons pleinement comme mécanisme qui apportera évidemment la paix et la résolution de conflits de manière durable dans notre pays. Mais en fait, la question qui s'était posée en ce moment-là, c'est que les gens qui étaient d'une part coupables se sont retrouvés dans une situation telle que ils avaient des responsabilités qui les soustrayaient à l'obligation de dire la vérité. Parce que dès lors qu'on sait que on est soi-même coupable de quelque chose, mais on assume désormais les charges officielles du gouvernement, on peut se soustraire de dire la vérité. Et les gens se sont soustraits à dire la vérité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose...
Mais le contexte n'a pas beaucoup changé.
Évidemment, évidemment. C'est pour ça que j'ai évoqué tantôt, faire la même chose pour espérer un résultat différent, ça serait de la stupidité. Parce que on l'a déjà fait par le passé, mettre la commission vérité et réconciliation à plus tard, la remettre à plus tard. Nous l'avons déjà fait. Et cette expérience malheureuse a eu comme conséquence, la vérité n'a jamais été dite, la réconciliation n'a pas été vraie, n'est-ce pas ? Et la paix n'est jamais revenue. Ce que nous voulons cette fois-ci, c'est la contribution modeste du Conseil interreligieux congolais, c'est de se dire, si nous voulons un dialogue, tant mieux, nous sommes d'accord avec l'idée du dialogue, mais seulement tâchons de faire les choses dans la sincérité. Nous sommes religieux, nous sommes d'abord la religion, et en religion, ce que nous nous efforçons d'apprendre à la population, quelle qu'elle soit, dirigeant ou population ordinaire, nous nous efforçons de leur apprendre que les situations critiques peuvent se résoudre par la vérité. Et la vérité, pour qu'elle soit dite, il ne faut pas que certaines personnes aient le privilège de s'en soustraire. Et donc, cette expérience de 2003 nous a appris qu'il ne faut pas refaire la même chose. Mais il y a des choses, si vous le permettez, que j'aimerais épingler dans ce qui a été dit par notamment M. Ferdinand Kambere, par exemple. J'ai entendu, c'est un véritable cri de cœur. Le Conseil interreligieux congolais, c'est ce que nous avons fait depuis que nous avons commencé avec ces consultations, c'est entendre les partis politiques, entendre les acteurs engagés dans la scène politique nationale, que ce soit de la société civile ou les autres organisations de la jeunesse. D'ailleurs, j'informe que bientôt, il y aura une communication du Conseil interreligieux qui ouvrira ses portes pour recevoir, n'est-ce pas, les gens qui sont intéressés pour apporter leur cahier des charges. Et donc, nous faisons ce travail-là pour écouter, d'abord. C'est un travail qui est pastoral. Nous n'avons pas pour objectif, ici, de faire de l'ombre à des acteurs politiques. Loin de là. Nous voulons simplement jouer notre partition en tant que religieux pour apporter une contribution que nous avons estimée substantielle. Et donc, dans ce que M. Ferdinand Kambere a dit, il y a écho avec ce que nous avons reçu dans leur correspondance. parce qu'ils font étalage de beaucoup de problèmes qu'ils déplorent à leur niveau. Et qu'ils soient rassurés. Le conseil interreligieux, malgré le fait que cette réponse, nous aurions préféré le recevoir autrement que par la voix des médias, etc. Nous trouvons que ce n'est pas totalement orthodoxe, mais nous n'en faisons pas un problème. Nous estimons qu'ils ont quand même exprimé, n'est-ce pas, les desiderata du conseil du PPRD. Nous avons pris bonne note. Le conseil interreligieux fera son rapport incessamment. Tout le monde pourra le lire, ça sera un rapport public. Et ce rapport sera déposé à qui de droit pour que nous puissions engager les prochaines étapes. Parce qu'il y a des prochaines étapes à la démarche du CIC. Autre chose, c'est que j'ai senti aussi en M. Ferdinand Kambéré, vers la fin de son propos, quelque chose qui était un petit peu taquin, je veux dire. Parce qu'il a dit, pourquoi ne pas s'associer avec Sanko et CC, ces autres-là. Je pense que l'idée ici, ce n'est pas que le conseil interreligieux s'oppose à quelque confession religieuse que ce soit. N'est-ce pas? Sanko et CC, ce sont des confessions religieuses. Autant que les confessions religieuses qui sont membres de la plateforme des confessions religieuses, autant que les confessions religieuses qui sont au sein du conseil interreligieux congolais. La République démocratique du Congo est un État laïque. Le fonctionnement des religions est encadré par une loi. Et donc, personne n'a le privilège, n'est-ce pas, n'a le privilège de dire ou de régenter les confessions religieuses en disant que sont confessions religieuses seules ceux qui sont sous tel label. Personne n'a cette prérogative.
Personne n'a les monopoles.
Exactement. Et donc, en tant que tel, le conseil interreligieux a la latitude d'apporter ses contributions. Et cette contribution n'est même pas de nature à contredire ce que Sanko et CC avaient déjà proposé
c'est
en
plus l'air. Ou moins complémentaire.
Du reste, plus ou moins, oui, parce que déjà... Je tiens à préciser que le conseil interreligieux était la première organisation confessionnelle qui a été consultée par Sanko et CC lorsqu'ils ont lancé l'initiative Pacte Social. Nous avons été au siège de l'interdiocésain, nous avons discuté avec la Sanko et CC, le tandem était présent. Nous avons promis de revenir vers eux après une étude minutieuse du travail qu'ils avaient proposé. C'est ce qui a été fait et nous avons déposé un rapport. La copie de ce rapport est aujourd'hui disponible en ligne, accessible dans le site internet du Conseil interreligieux congolais. Tout le monde peut le consulter. Et donc, nous sommes dans cette démarche-là, qui est une démarche constructive. Seulement, dans la proposition de la Sanko et CC, il n'a pas été dit commission vérité réconciliation. Il n'a pas été dit que les gens se réconcilient d'abord avant d'aller vers un dialogue. La Sanko et CC est d'accord avec le dialogue comme nous. Mais nous estimons qu'il y a un travail sur l'homme qu'il faut faire en amont. Et ce travail permettra à ce que les hommes ne continuent plus de se regarder en chien de faïence, mais qu'ils soient capables, même s'ils ne se pardonnent pas.
Mais par rapport à ces retours déjà que vous avez pu avoir dans ces débats, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous souhaitez continuer avec cette initiative?
Plus que jamais. Plus que jamais.
Au départ.
Plus que jamais.
Okay.
Pour la simple raison que, oui, nous avons aujourd'hui entendu deux co-débatteurs qui, l'un, est dubitatif sur le fait de le mettre en avant et l'autre est plus ou moins fermé, mais il n'y a pas que les deux co-débatteurs d'aujourd'hui. Le conseil interreligieux a entendu un bon nombre, n'est-ce pas, de partis politiques, d'organisations et même des membres de nos confessions religieuses, n'est-ce pas? Et il n'existe pas à ce jour une statistique officielle qui dit quelle est la proportion du pays qui est d'accord avec l'initiative CIC ou pas. Et donc, dès lors que nous sommes dans ce contexte-là, nous estimons que les avis favorables que nous avons récoltés jusqu'ici nous donnent le courage d'aller au-delà, d'avancer et d'aller jusqu'à ce que nous puissions obtenir la mise en place de cette commission. Parce que, soit dit en passant, nous comprenons ceux qui pensent que cette initiative risque de venir complexifier les choses ou risque de venir compromettre la dynamique qui est déjà lancée. Et pourtant, personne aujourd'hui n'est en mesure de dire cette dynamique est lancée déjà juste à combien de pourcents. Personne ne peut le dire.
Ok, justement, Cheikh, nous allons vous accorder la parole tout à l'heure. Alors, M. Itiel Batoumi, comment accompagner une telle initiative pour que les résultats soient satisfaisants, selon vous?
Parce que l'initiative, comme je le disais en introduction, elle est louable, mais je pense qu'il faut la cadrer par rapport à d'autres initiatives qui existent déjà, notamment, j'ai évoqué l'initiative du gouvernement dans sa politique sur la justice transitionnelle, mais également le processus de Doha qui doit avoir un protocole additionnel exclusivement consacré à cette question de justice, paix, vérité et réconciliation. Donc, évoluer avec une multitude d'initiatives qui, dont on ne sait pas classer parmi les initiatives déjà existantes, je pense que cela pose problème. Mais en même temps, la question de savoir qu'est-ce qui vient avant les dialogues et la commission, je pense que c'est une question pertinente parce qu'on le voit clairement qu'il y a une méfiance qui ne permet pas aujourd'hui d'aller vers la vérité, la réconciliation, tant que le climat politique reste vraiment crispé comme on le voit aujourd'hui et comme on l'entend lorsqu'on écoute Ferdinand Camber qui dénonce toutes les arrestations au secret de leur cadre et de leur militant. Donc je pense qu'il y a les conseils feraient mieux de s'engager à ce qui est d'abord la décrispation du climat politique et ensuite avancer vers d'autres processus qui soient plus globaux et inclusifs pour permettre à ce qu'il y ait d'abord un compromis avant de penser à la mise en place de cette commission qui, pour la mettre en place, va nécessiter beaucoup de moyens, que ce soit juridique, avec l'adoption d'une loi, financier, avec la dotation des moyens nécessaires pour pouvoir organiser les missions qui seront dévolues à cette commission. Parce que sans cela, je ne vois pas la matérialité de cette commission et son succès par rapport à l'histoire récente de la commission Vérité et Réconciliation qui n'a pas produit les résultats. Donc je ne pense pas que l'on doit lier l'échec de la commission Vérité et Réconciliation de 2003-2006 au fait qu'elle ait été mise en place un peu longtemps après les dialogues, mais c'est beaucoup plus la question de la volonté politique et des moyens qui avaient été mis en place pour le fonctionnement de cette commission ou de cette institution d'appui à la démocratie. Je pense que c'est là que se situent les débats sur l'efficacité ou non de cette commission. Il faut d'abord clairement définir quels seront les mandats et les missions et les mandats de cette nouvelle commission que l'on veut mettre en place et quel est le poids qu'on veut lui accorder pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
Ok, merci beaucoup Monsieur Itiel Batoumike. Monsieur Ferdinand Camberé, on va prendre cette réaction pour vous avant de vous donner la possibilité de réagir. Nous allons donc accorder la parole à notre auditeur qui nous a appelé depuis Kisangani, Kamumbe Fazili Alain, depuis la province de la Tchopo.
J'appelle la partie de Kisangani, Blaise Atubu. La proposition de l'archevêque de Dokamba d'instaurer une commission vérité et réconciliation avant les dialogues nationaux en RDC me paraît prématurée et politiquement risquée. Dans un contexte de guerre et de profonde méfiance, cette démarche pourrait retarder les dialogues urgents et accentuer les divisions. À mon avis, la priorité devrait être la cessation effective des hostilités et l'obtention d'un consensus minimal. La vérité est nécessaire, mais sans stabilité ni cadre politique solide, elle risque d'aggraver les tensions au lieu de favoriser une véritable réconciliation.
Voilà, vous avez corrigé avec moi. Il s'agit de Blaise Atubu qui nous a appelé depuis Kisangani dans la province de la Tchopo, comme je l'ai annoncé. Alors, Monsieur Ferdinand Camberé, votre réaction?
Non, je salue l'intervention de notre auditeur. Je crois qu'il a totalement raison et il rejoint les discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, le 23 mai, lorsqu'il a proposé dans ses 12 piliers que le point essentiel, c'était d'abord que les armes se taisent. On va parler comment entre parties prenantes, si les armes continuent à tuer, à retentir dans le territoire, continuent à massacrer les populations, on va se parler comment? Moi, je ne comprends pas. Je salue bien l'intervention de Cheikh qui est là pour représenter ce conseil interreligieux. Et je suis en train de me dire, est-ce qu'ils comprennent d'abord ce que c'est que la justice transitionnelle? Parce que le pilier de la justice transitionnelle, comme vient de le rappeler là mon ami et frère Batoumi, que par rapport à tout ce qu'il y a déjà eu comme initiative, toujours entamée par le gouvernement, Depuis qu'ils ont ramené les M23 ici, ils étaient à Nairobi, ils étaient à Luanda, ils sont maintenant à Doha, à Washington, c'est pas moi où. Ils n'ont jamais expliqué à la population ce que c'est que toutes ces démarches-là. Et puis, brusquement, Cinco. On met Cinco ensemble avec les autres religions. Non, on peut travailler indépendamment les uns des autres. On est, c'est pas moi quoi, autonome. En fait, si, de quoi, lorsque vous voulez parler du pays et vous vous croyez naître, vous ne pouvez pas réfléchir ensemble pour pondre quelque chose d'aussi potable et que tout le monde va accepter. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les piliers de la justice transitionnelle, il y a un, le droit à la vérité. Qui ont droit à la vérité? Ce sont les victimes aujourd'hui qui sont en train d'être massacrées. Ce sont les victimes aujourd'hui en insécurité. Ce sont les victimes aujourd'hui qui n'ont pas leur droit parce que l'administration est toujours mal dirigée. On parle de tribalisme, on parle de corruption, on parle de ceci. C'est ça. Ceux qui ont droit à cette vérité, c'est cette population qui devait être la première bénéficiaire de toute l'action du gouvernement. Leur famille. Ça, c'est le premier pilier. Et ce premier pilier, c'est ce qu'on appelle les dialogues, justement, national et inclusif. Ici, les institutions qui ont échoué ne peuvent pas se mettre dans ces cas et trouver des religions qui se disent, nous, on veut appuyer les institutions qui sont là, qui ont échoué et qui sont accusées de beaucoup d'abus de droit de la population. Et ils se vantent même de leur justice qui continue à jeter les gens en prison, à dissimuler des condamnations. Pour simplement leurs opinions politiques par rapport à la critique de la gestion du pays. Et on dit, bon, nous, en tout cas, ceux qui sont déjà condamnés par la justice, ceux-là ne peuvent pas participer parce que je vois ici que l'évêque de Dokamba est en train de relayer le discours qui a été présenté par le président Félix aux ambassadeurs. Et ça ne peut pas marcher. Le deuxième pilier, c'est la justice pénale. Parce que lorsqu'on se dit la vérité, dans un dialogue national et inclusif, et là on ne peut pas exclure, parce que vous ne savez pas qui est victime, vous ne savez pas qui est bourreau, c'est dans ces dialogues-là qu'on saura distinguer. Voici ceux qui ont commis des crimes, et c'est les crimes, c'est ici, pourquoi ceci. Et maintenant là, on sait différencier. Qui vont à la justice pénale? Qui vont dans la réconciliation où ils peuvent être intégrés dans l'administration?
Monsieur Kambere,
le premier pilier, c'est la réparation. Il faut réparer.
Monsieur Kambere, on va vous accorder de nouveau. Oui, Monsieur Kambere, on va vous accorder de nouveau la parole. On va justement permettre aussi à Batoumik d'écouter cette réaction d'un auditeur qui nous a appelé depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu, Monsieur Jules Magené.
Jules Magané depuis Bukavu. La démarche de l'archevêque Dodo Kamba visant à instaurer une commission vérité et réconciliation avant le dialogue national inclusif comporte à la fois des atouts et des fragilités. D'un côté, elle prépare méthodiquement le terrain en recueillant les avis des acteurs politiques et sociaux. Et elle ajoute une dimension morale en mettant l'accent sur les pardons et la réconciliation avec le peuple. Mais de l'autre côté, elle souffre de l'absence d'un mandat institutionnel clair. Elle risque de susciter des résistances politiques en apparaissant comme concurrence aux efforts présidentiels. Et elle demeure incomplète en excluant un dialogue direct avec les groupes armés. Ainsi, malgré sa valeur symbolique et préparatoire, cette initiative pourrait être compromise par ses limites institutionnelles et politiques.
Votre réaction, Monsieur Itiel Batoumiké?
Alors, c'est là peut-être que je ne suis pas d'accord avec l'auditeur, bien que je pense que il a raison dans une certaine mesure, mais subordonner les comportements des personnes qui doivent être maîtres pour mener des consultations visant à rapprocher toutes les parties au conflit à la volonté du président de la République, comme l'a dénoncé déjà Ferdinand Kambere. Je pense que c'est là la faiblesse de l'initiative qui est actuellement portée par les CIC. Je pense que les médiateurs, dans tous les cas, ils doivent garder neutralité, et tout en respectant bien évidemment l'autorité établie, mais garder leur indépendance vis-à-vis de l'autorité établie. Leur comportement ne doit pas être dicté par les positions de l'autorité établie, ils doivent en tout cas faire un effort de faire la part des choses entre le respect de l'autorité de l'État et la neutralité qui est attendue d'eux pour pouvoir conduire en toute objectivité et en toute inclusivité les processus qu'ils s'engagent à mettre en place. Je pense que le plus important n'est pas d'avoir le mandat direct du président de la République ou des autorités établies, mais plutôt de proposer en tant que citoyen, en tant qu'institution religieuse, qui a aussi une obligation morale et pastorale de pouvoir ramener les peuples à la réconciliation. Je crois que ça, c'est une mission qu'on peut les reconnaître, mais merci. Garder l'indépendance et la neutralité vis-à-vis du pouvoir présidentiel.
Merci beaucoup. Merci, M. Batoumik. Et on va prendre cette fois-ci une dernière réaction qui nous vient de la province du Kasaï central, de Kananga précisément, François Okunji Lange. Et c'est pour vous, Cheikh Amine Katembo.
François Okunji Lange, depuis Kananga au Kasaï central. L'archevêque Dodo Kamba a été boudé par le PPRD, par le fait des positions de ces derniers, démontrant son attachement aux avis du pouvoir. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont appelés à rester comme l'église au milieu du village. Ces consultations n'ont pas d'impact, car cherchant à vouloir flatter et se faire attendre par le chef de l'État, en voulant habiller la révision constitutionnelle, les glissements politiques. Nous attendons les consultations des élèves issus du président angolais de Doha et des États-Unis. Les opposants Martin Fayoulou, Jean-Marc Aboun, Delice Sanga, Prince Epengue, Moïse Katumbi et certaines organisations africaines sont d'accord pour un dialogue inclusif. Comme Joseph Olengankoy, le dialogue national est une priorité et le respect constitutionnel est irrévocable.
Voilà, alors cher Amine Katembo, votre réaction?
Il a dit beaucoup de choses, beaucoup de ce que les gens parfois radotent. Mais je pense que le plus important ici, c'est de dire que la démarche du Conseil interreligieux congolais n'est pas une démarche qui est dans la logique de chercher satisfaction du président de la République forcément, ou de chercher satisfaction du régime. Loin de là. La démarche du CIC, comme je l'ai dit tantôt, est une démarche pastorale. Elle est assumée, elle s'engage en tant que telle. Mais en tant qu'organisation organisation confessionnelle, elle tient au respect de la loi
et vous
au respect
de la légitimité. C'est la recette entre guillemets magique pour justement aboutir à une solution apaisée face
nous
à
en
cette
sommes,
crise.
Nous en sommes convaincus, malgré le fait qu'il y a des résistances. Je l'ai dit tantôt, nous avons commencé les consultations depuis un certain temps. Les avis défavorables sont minimales. Que les avis favorables.
Okay.
Et donc, nous sommes aujourd'hui confortés dans notre idée que la commission vérité et réconciliation mise en amont donnera une meilleure solution. Évidemment, un élément de détail pour terminer, c'est de dire que cette commission vérité et réconciliation, il ne faut pas que les gens l'aperçoivent comme étant une démarche qui doit d'abord être menée de bout en bout avant que le dialogue ne puisse arriver. Non, c'est une démarche qui doit commencer pour décrisper en amont. Et elle va se poursuivre pendant le dialogue, elle se poursuivra et elle continuera même après le dialogue. Mais le plus important ici, c'est qu'il faut pouvoir mettre les hommes face à face pour qu'ils puissent discuter et avoir un dialogue véritablement sincère. Il s'agit des hommes. S'il n'y a pas de sincérité, ce dialogue ne donnera rien autant que les dialogues précédents.
Voilà, merci cher Amine Katembo. Alors monsieur Ferdinand Kambere, votre conclusion, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission au Dialogue entre Congolais, votre conclusion à ces débats en quelques secondes s'il vous plaît.
En tout cas, la conclusion est claire. Je crois que, comme l'a reconnu Cheikh, par rapport à tout ce que nous avions exprimé dans notre lettre, si l'ère des marches est une démarche auprès du pouvoir pour la décrispation du climat politique pour que les gens se mettent ensemble et que les gens comprennent que les armes doivent se taire pour que les gens se parlent, c'est le dialogue qui est le premier point de la justice transitionnelle.
Merci beaucoup.
Dans les dialogues qu'on sait maintenant, séparer ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons. Dans le dialogue, pas en dehors du dialogue.
Merci beaucoup.
Et c'est là qu'on voit les réparations et à la fin, les réformes se tiennent par rapport, c'est peut-être là où l'ancienne commission n'avait pas réussi, où il fallait distinguer ceux qui ont commis des crimes graves et ne pas permettre qu'ils entrent dans les institutions.
Merci beaucoup.
Pour les réformes d'être bénéfiques au peuple.
Merci Monsieur Kambere, merci de votre participation. On va clôturer avec vous Monsieur Itiel Batoumik et en 5 secondes votre conclusion.
Donc, l'initiative n'est pas arrêtée complètement, mais il faut qu'elle soit encadrée et qu'elle soit précédée par la décrispation et le dialogue pour qu'elle puisse produire des résultats escomptés à l'avenir, en insistant également sur la justice pénale et la nécessité de pouvoir ne pas cautionner tous les criminels qui seront reconnus comme tels après tout ce qu'il y aura comme dialogue processus de vérité.
Merci beaucoup. Voilà, merci à tous les trois participants à ces débats. Cheikh Amine Katembo, professeur et coordonnateur adjoint du secrétariat technique du Conseil interreligieux congolais. Merci.
Merci beaucoup.
Merci également à Monsieur Ferdinand Kambéré, avocat et secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et les Développements, le PPRD, parti membre du Front commun pour les Congos. Merci Monsieur Ferdinand Kambéré.
Merci Jean-Marc, merci à tous les autres co-débatteurs.
Merci enfin à Monsieur Itiel Batoumi, qui est analyste politique à Ibouteli, l'Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Merci beaucoup Monsieur Batoumi.
Merci beaucoup.
Merci aussi à toute l'équipe, André Mungu, à la mise en onde de Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, pour les lives sur nos plateformes digitales. Merci également à Guy Maté qui a coordonné ces programmes et merci à Benjamin Moudoumbi qui a assuré la réalisation. Je suis Jean-Marc. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous et merci de continuer à suivre le Dialogue entre Congolais sur nos plateformes digitales et surtout passer une excellente fin de la journée sur Radio Capi.